Bon, ce sont quelques réflexions autour de ce thème que j'espère enfin utiles. Dans une certaine mesure, je considère que le problème central de l'existence, surtout des relations humaines, c'est la question de pouvoir. C'est l'usage qu'on fait de notre pouvoir sur soi-même, les uns sur les autres, etc., qui détermine dans une large mesure la nature de nos relations humaines. Alors, je voulais d'abord remarquer qu'il y a quelques catégories de pouvoir, ou ce que j'appelle les différentiels de pouvoir, les différences de pouvoir. Parce qu'en fait, réglons d'abord un cas. Si dans notre relation, toi et moi, nous avons exactement le même pouvoir, alors soit on coopère et on s'entraide et tout ça, soit on se conteste et puis nos deux pouvoirs étant égaux, s'annulent et ni l'un ni l'autre ne va nulle part, on ne peut pas, l'un ne peut pas dominer l'autre et ni l'un ni l'autre ne peut tirer aucun bienfait de cette opposition. Donc j'examine les cas où il y a une différence de pouvoir. D'abord, il y a les différences de pouvoir qui sont naturelles, qui sont innées. L'exemple premier, c'est les parents et les enfants. Les enfants sont nés vulnérables. Ils sont nés sans aucun pouvoir. Et ils sont entourés, ils sont soignés par des gens qui ont un pouvoir de vie et de mort sur eux, en fait. Un pouvoir quasi absolu sur eux, les parents. Alors, donc nous commençons tous, c'est assez intéressant, et je pense qu'on peut réfléchir beaucoup là-dessus. Pourquoi Dieu nous a créés, il a créé la société de telle sorte à ce qu'on commence la vie dans une position de faiblesse totale. Donc, cette différence de pouvoir entre les parents et les enfants, évidemment, ça donne lieu à la possibilité d'abus de pouvoir, et nous savons que, hélas, ces choses-là existent. Mais le pouvoir peut aussi servir pour aider l'autre, pour faciliter l'autonomie de l'autre, pour éduquer l'autre. Donc, premier principe, le pouvoir n'est pas en soi un bien ou un mal. Le bien et le mal, ça provient de l'usage qu'on fait du pouvoir. Exemple, encore une fois, les parents, s'ils utilisent le pouvoir sur l'enfant de façon abusive, ça peut ruiner la vie de cet enfant. Enfin, hélas, nous savons que c'est possible, n'est-ce pas? Si l'enfant est suffisamment traumatisé. Et à l'autre bout du spectre, si ils utilisent ce pouvoir pour aimer l'enfant, pour l'élever, le soulever, l'éduquer et faciliter son autonomie, eh bien ce pouvoir serait du plus grand bienfait que l'enfant puisse avoir. Donc, il ne faut pas faire l'équivalence entre mal et pouvoir et bien et manque de pouvoir. La faiblesse en soi n'a aucune valeur et le pouvoir n'a en soi aucune valeur. La valeur se trouve dans l'usage qu'on fait, dans les décisions morales qu'on fait, dans notre façon de disposer du pouvoir qu'on a. Une deuxième sorte de pouvoir, c'est un pouvoir qui provient des rôles sociaux, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça, c'est comme patron et employé, par exemple. Il n'est pas présumé que la personne qui est patron a une supériorité innée ou un pouvoir inné sur l'employé, enfin, comme les parents et l'enfant, où cette différence est innée. C'est vraiment dans la nature que les parents ont ce pouvoir. Il ne peut pas ne pas avoir le pouvoir. les conditions de la vie leur donnent, mais ce n'est pas le cas. On peut dire que c'est la condition de la société qui donne ce pouvoir. C'est la question des rôles sociaux ou des rangs sociaux. Donc, évidemment, la raison pour les rangs sociaux, c'est en partie pour avoir un certain ordre dans la société. On ne peut guère, par exemple, décider démocratiquement qui va piloter les avions et qui va opérer les cerveaux cette année, n'est-ce pas? Il y a des fonctions dans la société qui requièrent des compétences. Il y a donc des critères qui doivent être rencontrés et des personnes qui ne rencontrent pas ces critères, on ne leur accorde pas le pouvoir d'accesser ces choses-là, n'est-ce pas? Donc, le rang social dépend en partie de la compétence, mais le rang social peut dépendre aussi des choses qui n'ont très peu à faire avec la compétence. Par exemple, dans les pays communistes, par exemple, ou dans le nazisme, le rang social dépendait plus ou moins de son enthousiasme pour le parti communiste, n'est-ce pas, ou le parti nazi. Et souvent, des gens de moins de compétences étaient élevés au-dessus des gens de plus grande compétence pour des raisons politiques, précisément pour contrôler ces gens-là. En tout cas, c'est juste une remarque que le rang social ne signifie pas nécessairement une plus grande compétence. OK? Comme nous savons tous, nous avons tous eu cette expérience. Une troisième source de pouvoir, c'est la concertation des pouvoirs individuels. Ça, c'est les associations, comme des clubs ou des religions aussi, où les gens se groupent, se mobilisent autour d'un idéal ou d'un but commun. Et ils mettent leur pouvoir individuel ensemble et ils cèdent une certaine liberté individuelle au groupe, n'est-ce pas, par des mécanismes décisionnels qu'ils entendent. Et ça crée un réservoir de pouvoir, enfin, qui, encore une fois, peut être accessé soit pour le bien, soit pour le mal. Comme on voit, il y a des guerres de religion, il y a des fanatiques religieuses qui utilisent ce pouvoir de concertation de façon tout à fait immorale, et d'autres qui l'utilisent pour le bien, pour les bonnes œuvres, pour aider les pauvres, enfin pour toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Donc encore une fois, le pouvoir en soi est amoral, la moralité se trouve dans l'usage qu'on en fait. Donc, ce pouvoir de concertation, ça peut se jouer autour des buts extrêmement limités, par exemple la Société des mathématiques du Canada, enfin, c'est une concertation de pouvoir, mais qui a un but extrêmement limité, etc., pour desservir une certaine partie assez restreinte de la population, et encore là, dans certains buts extrêmement limités. Et à l'autre extrême, ça peut, comme une religion, avoir des buts multiples, enfin, qui touche à beaucoup d'aspects de la société. Et finalement, il a le pouvoir, enfin, je dis finalement parce que c'est tout ce que moi j'ai pu compter, mais si vous pensez à d'autres qui ne rentrent pas dans ces quatre catégories, on peut en parler. Il a le pouvoir qui vient de ce qu'on appelle le contrat social, c'est-à-dire la convention sociale où les gens acceptent, pour des raisons d'ordre et tout ça, d'accorder certains pouvoirs, par exemple, à des élus, n'est-ce pas? Mais ça peut être des dictatures aussi, n'est-ce pas? En fait, ça peut être toutes sortes de choses, toutes sortes de mécanismes plus ou moins démocratiques, etc. Mais c'est quand même des conventions sociales, parce que un dictateur, aussi puissant qu'il puisse être, ne peut pas gouverner sans la complicité d'un bon nombre de personnes, n'est-ce pas? Et donc, ça revient, à mon avis, à des conventions sociales. Mais on ne pourrait peut-être pas appeler ça un contrat social dans le sens que nous l'entendons ici, dans des pays plutôt démocratiques. En tout cas, C'est à ce moment-là les conventions qui créent un certain ordre, une gouvernance de la société, et que les gens reconnaissent, et habituellement, ils sont prêts à céder une certaine liberté individuelle à ce pouvoir pour le bien de tous et surtout pour la protection des faibles. Parce que il y a deux extrêmes, évidemment, dans cette question de pouvoir. Un extrême, c'est l'anarchie. L'anarchie, c'est où il n'y a aucun pouvoir social, où tout le pouvoir est individuel. Dans ce cas-là, les plus forts victimisent les plus faibles, tout simplement. C'est chacun pour soi. Ça, c'est la loi de la jungle, n'est-ce pas? C'est l'anarchie. Alors, on peut prouver même mathématiquement que dans n'importe quel système anarchique, les plus forts, dans une ou deux générations maximum, les plus forts vont éliminer les plus faibles, ils vont les dominer, ils vont les rendre esclaves, ils vont les dominer complètement. On a vu un film, j'ai dit l'autre soir, sur les débuts de la révolution communiste en Russie. En fait, c'était d'un point de vue particulier. D'un Américain, John Reed, peut-être vous connaissez le nom, oui, qui a été... Comment ?
10 jours qui ont changé.
Oui, qui ont changé le monde, et puis il est enterré dans le mur du Kremlin et tout ça. C'était un Américain qui était un communiste convaincu, qui a fini ses jours en Russie, qui était un ami de Lénine, et puis, etc. Enfin, mais en tout cas, tout ça pour dire que le film a montré de façon très bien comment la révolution avait commencé avec vraiment un idéal. C'était enfin les prolétaires, c'est-à-dire les gens faibles de la société, des opprimés de la société, qui croyaient avoir la justice. Mais c'était l'anarchie parce qu'il n'y avait pas de règles, c'était la révolution. Ça veut dire que tout ce qui était établi était révolu, c'était tabula rase, n'est-ce pas? Et dans très peu de temps, les plus intelligents, les plus manipulateurs ont pris le pouvoir sur les autres et ils les ont écrasés, n'est-ce pas? C'est ce qui doit arriver dans un système d'anarchie, n'est-ce pas? L'autre extrême, c'est évidemment la dictature où une personne, disons, a un pouvoir quasi absolu sur tout le monde, avec, comme j'ai dit, la complicité des autres. Mais ces deux extrêmes sont à peu près également difficiles à vivre. C'est pas la peine d'essayer de dire lequel est le meilleur entre ces deux mots. Mais au moins avec un dictateur, il a la possibilité de faire appel à la conscience de la personne. Mais dans l'anarchie totale, il n'a rien à faire. C'est-à-dire les plus forts vont gagner et il n'y a personne à qui vous pouvez faire appel. Si vous êtes victime, vous êtes victime et ça finit là, n'est-ce pas? Ce qui suggère, comme Bahá'u'lláh le dit, que l'anarchie est le pire de tout, que c'est pire même que la dictature. Pas qu'il prend la dictature, mais de tous les maux, de tous les extrêmes, l'anarchie est le pire, selon Bahá'u'lláh. Maintenant, dans la confrontation ou l'interaction entre des êtres humains, nous avons chacun un certain pouvoir, et nous faisons des choix comment nous disposons de ce pouvoir dans nos relations. Alors, nous vivons, comme on a déjà dit dans les discussions passées, dans une société axée sur la compétition, sur la concurrence à tous les niveaux. Alors, sans entrer dans les grands détails, on peut dire la chose suivante. Nous sommes tous nés avec des points forts et des points faibles. Et personne n'est parfait, personne n'est né tout puissant, n'est-ce pas? Nous nous développons, si on prend soin de nous, et nous avons tous des points forts et des points faibles naturels. Maintenant, dans une société de compétition, La stratégie optimale, c'est de projeter ses points forts et de cacher ses points faibles. Pour la raison évidente, si vous êtes en compétition avec les autres, si vous montrez vos faiblesses, vos vulnérabilités, vos compétiteurs vont utiliser cette connaissance pour gagner un pouvoir sur vous, pour vous victimiser. Donc, à la longue, ce développement qui est axé sur nos points forts et sur la cachette enfin de nos points faibles, la répression de nos points faibles, ça amène au mieux à un développement extrêmement déséquilibré. Parce que vos points forts deviennent de plus en plus forts, et vos points faibles deviennent de plus en plus faibles, et surtout comparés à vos points forts, n'est-ce pas? Alors, si au début, vous avez, la logique, mettons, était votre point fort, et les sensibilités du cœur étaient un peu le point faible, mais si pendant 50 ans ou 60 ans, vous développez juste votre côté logique ou intellectuel ou scientifique, au dépend de votre côté affectif, alors vous allez vous trouver au bout de 50 ans un monstre, n'est-ce pas? Un monstre qui sera soit indifférent ou insensible aux autres, ou soit manipulateur des autres, n'est-ce pas? Mais on peut dire la même chose pour des gens qui sont plus doués de point de vue affectif et moins doués de point de vue intellectuel. Chaque équilibre, déséquilibre est un mal. Et c'est pourquoi, à mon avis, nous voyons par exemple que les gens que nous considérons comme très réussis dans la société, par exemple les grands artistes, les grands scientifiques, les hommes politiques aussi, les hommes d'affaires, enfin les gens qui réussissent, qui sont allés très très loin dans une direction, en général, ces gens-là ont des faiblesses cachées que les gens découvrent, enfin, dans des façons assez inattendues, n'est-ce pas? En fait, on dit, mais voilà, cet homme-là bat sa femme, ben, je le connais, enfin, j'ai côtoyé ce type tous les jours depuis 20 ans, il est au bureau, c'est un excellent collègue, il a un sens d'humour, et puis maintenant on vous dit qu'il abuse de ses enfants, ou il abuse sa femme, etc. C'est pas possible, mais c'est parfaitement possible. Il a versé tout son pouvoir dans le développement de sa réussite, et il a négligé complètement le côté des relations intimes, etc. Donc, dans toutes nos interactions, nous avons le choix entre utiliser notre pouvoir pour notre développement et le développement des autres, ou utiliser notre pouvoir pour gagner sur les autres. Maintenant, dans une société basée sur la coopération au lieu de la compétition, à ce moment-là, l'algorithme de développement change. Dans une société qui est vraiment coopérative, la stratégie optimale, c'est de développer et vos points forts et vos points faibles, mais de donner un peu plus d'énergie à vos points faibles. Parce que vos forces vont, en quelque sorte, ça va aller de soi, dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Il ne faut pas les négliger, mais on donne un peu plus d'attention aux points faibles. Et ça permet donc un développement beaucoup plus équilibré, parce que nos points faibles deviennent des points forts, et ça se développe. On a un développement, comme j'ai dit, beaucoup plus équilibré. Et les relations humaines sont évidemment beaucoup plus agréables, parce qu'on n'est pas, on n'a pas cette tension de compétition les uns avec les autres. Alors c'est ce que, c'est la base, par exemple, de la foi de la communauté Baha'i, telle que Baha'u'llah la construit. Tous les paramètres de la communauté Baha'i, que ce soit des élections, des activités en groupe, en fait tout, est basé sur la coopération, la consultation et la coopération, et pas sur la compétition. Maintenant, vous dites, mais les gens peuvent se compétitionner quand même, c'est vrai, mais dans la discussion, nous pouvons parler en plus de détails de ça, il y a des mécanismes que Baha'u'llah a mis très astucieusement dans la communauté Baha'i, qui garantit que personne ne va réussir à long terme à chercher le pouvoir dans la foi Baha'i. D'ailleurs, la personne qui recherche le pouvoir dans la foi Baha'i va finalement se couper l'herbe sous le pied. C'est-à-dire, les autres vont reconnaître ça, et finalement, il va s'isoler, etc. Donc, ça, c'est toute une autre discussion. Tout ce que je veux souligner, c'est qu'il y a une différence profonde entre l'usage du pouvoir stratégique dans une société basée sur la compétition et l'usage du pouvoir dans une société qui est coopérative, qui est conçue comme coopérative. Et il y a différentes raisons pourquoi une société peut être coopérative et tout ça. Avec l'entraide, etc. Nous ne pouvons pas faire le choix pour les autres, mais nous pouvons faire le choix pour nous-mêmes. C'est-à-dire, dans nos relations humaines, on devient quand même conscient de nos points forts, de nos points faibles. On peut, s'il y a une différence de pouvoir entre vous et moi, par exemple, entre deux personnes, ça peut être une partie innée, n'est-ce pas, qu'une personne a une certaine capacité que l'autre n'a pas, ça peut être à cause de la concertation, à cause de la convention sociale, ou à cause du rang social, le statut des deux, enfin, comme les patients et les médecins, par exemple, ou le professeur et les élèves, c'est les rangs sociaux qui font que le patient est vulnérable devant le médecin, l'élève est vulnérable devant le maître, le professeur. Et encore une fois, vous avez toujours le choix comment vous vous servez de votre pouvoir. Le médecin, par exemple, peut célébrer sa supériorité sur le pauvre malade, ou il peut utiliser son pouvoir pour guérir, pour favoriser l'autonomie du malade, en espérant que le malade va finalement être aussi autonome que le médecin, ou même plus, pourquoi pas. La même chose pour le professeur. Le professeur peut célébrer son pouvoir sur l'élève, il peut écraser l'élève, il peut ridiculiser l'élève, mais il peut aussi utiliser son pouvoir pour faciliter l'autonomie de l'élève, pour le soulever, pour que l'élève finalement dépasse le professeur. Pourquoi pas? Si vous êtes dans une société coopérative, ça ne vous dérange pas. Vous avez été l'instrument de développement de quelqu'un d'autre. Bravo, n'est-ce pas? Vous vous êtes bien servi de votre pouvoir comme professeur. Alors je pense que la première chose dans tout ça, à mon avis, enfin, j'offre cette réflexion, c'est ce que j'appelle la conscientisation. C'est-à-dire, il faut d'abord se rendre compte combien de fois dans une journée on fait des choix quant à l'usage qu'on fait de notre pouvoir. Parce que la plupart du temps, ces décisions se font dans l'inconscience, n'est-ce pas? On fait ça spontanément. Et on dit des choses comme « dans cette circonstance, il n'y a rien d'autre à faire », n'est-ce pas? Alors, la première chose à faire, à mon avis, c'est de commencer à penser « mais quelles sont des autres possibilités à faire, n'est-ce pas? Il a d'autres choix. » Vous pouvez dire évidemment « je n'aime pas les conséquences de ces autres choix ». Mais d'abord, il faut dire que j'ai le choix. Et si je veux assumer ces conséquences, peut-être je vais faire ces choix-là, n'est-ce pas? Donc, je dois nourrir ma famille, je suis en concurrence pour un poste, un job, mettons, et j'apprends que le type raconte des mensonges sur moi, alors, qui est mon concurrent, alors moi je vais le descendre, je vais faire des commérages contre lui, ou je vais le saboter. Bon, ça c'est un choix que j'ai fait. Je peux dire, mais je n'avais pas d'autre choix parce que ma famille a faim, en fait, j'ai ma responsabilité, tout ce que vous voulez, mais c'est un choix que vous avez fait. C'est ça la première chose. C'est un choix que vous avez fait de réagir comme ça. Et on ne peut pas dire qu'il n'a pas d'autre choix. La dernière chose que je voulais dire, c'est juste un mot sur le leadership. Et la question du pouvoir, parce que je pense que il y a une certaine confusion, à mon avis, sur ce sujet. Il y a deux sortes de leadership, à mon avis. Il y a d'abord le leadership charismatique. Alors, évidemment, dans tout ce jeu de pouvoir, il y a des gens qui sont plus forts que d'autres, au départ, qui sont plus forts, par leurs compétences, par les circonstances de leur vie, pour toutes sortes de raisons. Mais si les gens cherchent vraiment à augmenter leur pouvoir, il faut tôt ou tard qu'ils aient la complicité des plus faibles. N'est-ce pas? C'est-à-dire, un homme ne peut pas être un vrai dictateur, il ne peut pas accéder à un grand pouvoir sans la complicité de beaucoup de personnes et surtout la complicité des faibles, sans trop vouloir définir exactement ce que j'entends par faible, mais vous comprenez, n'est-ce pas? Les plus faibles, enfin, les moins puissants. Alors, donc, les gens qui réussissent à s'accaparer du pouvoir, les Hitler, les Staline, etc., sont des gens qui sont charismatiques. Et qu'est-ce que ça veut dire, le charisme, dans ce sens-là? Ça veut dire la capacité que les gens faibles s'identifient à votre pouvoir sans que ça augmente leur pouvoir. OK? Et ça se fait par un discours. Et les grands dictateurs sont des génies dans ce discours. Par exemple, quand nous entendons un discours de Hitler, enfin surtout si on ne connaît pas bien l'allemand, bien, on en rit, n'est-ce pas? Mais il est ridicule avec sa moustache et tout ça, avec son langage de corps qui est tout à fait chaotique, etc. Comment est-ce que personne n'aurait pu suivre? Mais c'était un génie dans le discours pour les Allemands. C'est-à-dire, il avait su comment toucher quelque chose dans le cœur, si vous voulez, des Allemands de l'époque, n'est-ce pas? Et donc, ce charisme fait que les gens reconnaissent que cette personne a un pouvoir, même un pouvoir démesuré. Mais au lieu de s'identifier comme des faibles par rapport à ce pouvoir, tout en étant faible, ils s'identifient à son pouvoir, pas à leur pouvoir, mais à son pouvoir. Et cette identification à son pouvoir leur donne un sentiment de puissance. OK? Jusqu'à ce qu'ils deviennent, eux, victimes du pouvoir. Et à ce moment-là, c'est trop tard. Okay. Comme une personne a dit, en fait, c'était un pasteur allemand, qui était un des rares pasteurs allemands, enfin, qui avait résisté les nazis. Il était finalement... il est mort, n'est-ce pas? En fait, il était mort en prison en 1944, je pense, vers la fin de la guerre, enfin. Il avait sorti la phrase suivante que je trouve enfin vraiment incroyable. Il dit, quand ils sont venus pour les juifs, je ne résistais pas parce que je n'étais pas juif. Quand ils sont venus pour les catholiques, je n'ai rien fait parce que je n'étais pas catholique. Quand ils sont venus pour les gitans, je n'ai rien fait parce que je n'étais pas gitan. Quand ils sont venus pour moi, il n'y avait personne qui restait pour protester. Mais c'est ça le leadership charismatique, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment, la personne il s'identifie à la puissance au lieu de s'identifier avec la victime. Victime, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que lui devienne victime, n'est-ce pas? Et ils ont demandé, par exemple, aux Russes, bien après, enfin, dans la période de Perestroïka, peut-être vous ne savez pas tout sur les goulags et tout ça, mais vous saviez quand même que des gens disparaissaient, n'est-ce pas, dans la nuit et tout ça. Il n'y avait presque pas une famille en Russie qui n'était pas touchée par ça. Alors, ne me racontez pas des histoires que vous ne savez pas, que Staline mettait les gens innocents en prison et tout, et tout, et tout. Pourquoi vous avez toléré tout ça? Pourquoi vous n'avez pas protesté? Et la réponse était assez intéressante. C'était très uniforme. Les gens disent, on aimait Staline parce qu'il faisait trembler l'Occident. Donc il s'identifiait au pouvoir de Staline. Et Staline faisait trembler l'Occident. Mais les victimes de Staline, ce n'était pas l'Occident, c'était les Russes. C'est ça le jeu. C'est ça le jeu du pouvoir charismatique. Et ça peut se jouer au niveau d'une entreprise ou n'importe quoi, n'est-ce pas? Et, mais ça, c'est le jeu. Si vous voulez démasquer le jeu, c'est le jeu. C'est le pouvoir du leader charismatique de tenir un discours, si vous voulez, qui permet les gens plus faibles de s'identifier à son pouvoir au lieu de s'identifier comme victime de son pouvoir. Jusqu'à ce que ça, c'est trop tard, n'est-ce pas? Enfin. Maintenant, l'autre modèle de leadership, c'est le modèle qu'a montré tous les prophètes et tous les saints dans toutes les religions. Et c'est la conception de leadership comme service. Jésus se présente comme le serviteur. Quel est le nom d'Abdu'l-Bahá? Le servant de Baha, n'est-ce pas? Tous les prophètes, tous les saints. Pourquoi on appelle les saints? Parce qu'ils ont, ils se sont voués à l'aide aux pauvres ou qui se sacrifient pour les autres. Et ça, c'est le leadership par l'amour et par la justice. C'est-à-dire, là, on a un pouvoir, mais on se sert de ce pouvoir uniquement pour servir les autres. Et, en quelque sorte, on peut dire que la spiritualisation du monde, c'est le cheminement du leadership charismatique que nous subissons depuis des millénaires au leadership de service. Évidemment, tout au long de l'histoire, il y a eu des exemples de ce leadership de service. Mais ce n'est jamais devenu la règle, n'est-ce pas? Ce n'est pas encore devenu le leadership qui est le plus courant. Alors, nous pouvons tous contribuer, à mon avis, d'abord par la façon que nous disposons du pouvoir dans nos relations humaines, et en même temps, en démasquant ce jeu de pouvoir des manipulateurs. Et évidemment, ça se fait partie de la recherche de justice. Comment on fait ça? Ben voilà, on peut laisser ça à la discussion.